Bonjour tout le monde. Je vais vous témoigner de ce qui m'est arrivé il y a 2 ans. Et que j'ai laissé un petit peu dans un coin de ma tête. Je demande d'ailleurs pardon au Seigneur parce que je n'ai pas donné l'importance qu'il fallait donner à cet événement-là. Et je ne peux pas expliquer pourquoi, en fait. C'est resté coincé dans une partie de ma tête et j'en ai parlé par hasard à Mireille pendant le confinement, alors qu'elle m'avait appelée pour prendre des nouvelles. C'est ressorti comme ça d'un coup. Puis à ce moment-là, Mireille et Albert m'ont dit « il faudrait que tu en parles un jour ». Et ça fait déjà 1 an que j'en ai toujours pas parlé. Aujourd'hui, c'est l'occasion. Si vous ne savez pas, il y a 2 ans, ma belle-mère était tombée gravement malade. Elle a eu un cancer de l'estomac. Elle a fait une chimiothérapie et ensuite elle a subi une ablation totale de l'estomac. Et pendant qu'elle était hospitalisée, on était parti la voir. Il n'y avait pas encore le Covid. Mais à côté d'elle, il y avait une femme d'une 50aine d'années, pas bien âgée, mais elle était condamnée. Et ma belle-mère, elle a réussi à me dire discrètement qu'il lui restait très peu de jours à vivre. Et pourtant, cette femme semblait affaiblie, mais pour moi, elle n'était pas mourante. Enfin, on discutait quand même. Et j'étais arrivée à un stade de découragement. Mon mari n'est pas converti. Dans ma famille, c'est très compliqué. Ils sont loin de moi géographiquement. Et je pense que s'ils n'étaient pas loin, je ne pourrais pas aussi librement vivre ma foi. Ma maman aime le Seigneur, mais elle est encore dans des systèmes de tradition qui sont très, très lourds. Quant à mon frère aîné, c'est extrêmement chaotique. Il a une vie très chaotique. Et il est dans la provocation et il peut être même très blessant là-dessus. Donc, je suis arrivée à une forme de mutisme. Alors qu'au tout début de ma conversion, j'en parlais énormément. Je travaille dans l'éducation nationale, donc encore, c'est un milieu qui n'aime pas le Seigneur ou qui ne le connaît pas, ou les deux. Et du coup, je me suis dit, laisse tomber, ce peuple, et là encore, je demande pardon au peuple français, ce peuple a fermé son cœur, il sait tout mieux que les autres, il a tout inventé, il a un esprit cartésien, et puis, mais qui se débrouille. J'étais arrivée à un stade où j'étais aigrie à ce niveau-là. Et pourtant, en voyant cette dame, en lui parlant, le petit tic-tic là, dont tu parlais tout à l'heure, Emmanuel, s'est réveillé d'un coup. Je me suis dit, mais tu perds quoi ? Si elle a encore quelques jours à vivre, si maintenant tu ne parles pas, tu ne parleras jamais. Et je me souviens, je me suis approchée d'elle, je lui ai pris la main, puis j'ai dit, voilà moi ce que je vous propose. Vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. Moi, je crois en Dieu. Je crois que Jésus, il est mort pour nous, mais qu'il est plus fort que la mort et qu'il y a autre chose. Si vous voulez, on peut prier. Prier, c'est très simple, c'est parler à Dieu. D'ailleurs, vous n'avez rien à dire, c'est moi qui parle, et puis si vous êtes d'accord, dites-le moi. Puis elle m'a dit oui. Bon, ma belle-mère était juste à côté, Daniel aussi. J'ai pris la main de cette dame et j'ai prié. Je lui ai dit, écoute Seigneur, tu vois bien, il y a une âme devant toi. Les médecins disent qu'elle n'en a plus pour longtemps. Toi, tu sais toutes choses, mais parle à son cœur. Et au fond de moi, je disais, Seigneur, maintenant, c'est plus le temps de trouver des belles paroles, machin. Le temps presse, toi, tu le sais, il faut agir. Et j'avais rarement prié avec autant d'autorité, même cérébralement, dans ma tête, quoi. Je ne l'ai plus jamais revue, cette personne. Elle est décédée entre-temps. Mais un de mes beaux-frères, l'aîné, Ricardo, il l'a vue avant qu'elle ne décède. Et elle lui a dit, tu diras à ta belle-sœur que j'ai vu un homme, dans mon rêve, j'ai vu un homme qui était habillé de blanc. Il était tout en blanc, il s'est approché de moi. Je pensais que c'était mon père. Et lorsqu'il s'est beaucoup approché de moi et qu'il était au-dessus de ma tête, je l'ai regardé et j'ai vu que c'était pas mon père. C'est peut-être la personne, ce Jésus dont parlait ta belle-sœur. Et Ricardo m'en a parlé. Il me dit, ah, au fait, elle m'a dit ça. Ok. Je ne sais pas pourquoi c'est parti dans l'oubli dans ma tête. Je n'en ai plus reparlé. Et c'est en discutant avec Mireille que je me suis dit, non, ce n'est pas possible, tu as laissé ça de côté. Et ça a aussi été un tremplin par rapport à mon beau-frère. parce que pour ceux qui ne savent pas, ma belle-famille a baigné dans le système des témoins de Jéhovah. Et Ricardo est très rebelle par rapport à tout ce qui concerne Dieu. Et il m'a toujours dit pourquoi les Juifs sont mieux, pourquoi il y a un peuple élu. Enfin, il y a un problème à ce niveau-là. Et un jour, j'ai du mal à discuter avec lui, mais un jour, j'ai réussi. Puis il me dit, mais de toute façon, Dieu, ça y est, il ne va plus t'aimer parce que tu n'as pas fait le tour des maisons, parce que tu n'as pas assez marché, tu n'as pas cogné sur beaucoup de portes. Et je lui dis, Dieu, il t'aime parce que tu existes. De la même manière qu'il ne va pas arrêter de t'aimer parce qu'un jour de samedi, tu as été allumé la lumière. Parce que c'est un petit peu la loi des Juifs aussi sur le Shabbat. Je lui ai dit, il t'aime parce que tu existes, même si tu es casse-pied. J'ai un peu de mal avec mon beau-frère. Donc là-dessus, je lui ai dit, tu existes, donc il t'aime. Ça s'appelle l'amour inconditionnel. Bon, c'est encore très compliqué. Je suis entourée de personnes qui veulent pas pour l'instant, ils veulent pas se mouiller ou ils croient qu'on est des losers quoi. Je pense que Daniel croit ça, mon mari croit ça, que tu viens au Seigneur mais tu perds beaucoup de liberté. Mais en tout cas, le Seigneur me donne encore la force de continuer. Et j'ai voulu partager ça avec vous.